Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. Comme tous les jours, mon co-animateur est à mes côtés, Olivier de Scooter. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et notre invité de la semaine avec qui on termine notre série hebdo, Monsieur Michel Musso. Salut Michel.
Bonjour à tous les deux.
Hier, on a parlé de la Race Across Belgium. Tu nous as glissé à un moment que tu échangeais souvent avec l'organisateur de la Race Across France, à savoir Arnaud Manzanini, que d'ailleurs, on n'a pas encore reçu. Il va falloir qu'on se le mette dans les tablettes. Comment est-ce que vous échangez, voire collaborez ensemble et quels sont vos objectifs à long terme?
Alors, pour la petite histoire, en fait, quand j'ai lancé le projet de la Race Across Belgium, avant de le communiquer à plusieurs personnes, je me suis dit, on avance rien tout seul. Moi, j'avais peur d'avoir une vision d'il y a 30 ans, parce qu'il faut se remettre dans le contexte un peu, on en a parlé tout à l'heure. Donc, j'ai pris contact avec différents organisateurs en Europe et aux États-Unis, la Race Across America. Et puis, on a d'abord échangé. Et donc, Arnaud m'a tout de suite apporté des éléments de construction. Et entre guillemets, voilà, l'idée a germé aussi grâce au soutien d'Arnaud. Et aujourd'hui, en fait, même dans le projet, avec le report qu'il y a eu, toutes ces choses-là, il a toujours été là pour m'apporter soit des conseils ou sa vision, parce que lui, c'est la quatrième édition. Ils sont à 800 participants cette année, ils étaient à une centaine la première, pour voir un peu le potentiel d'une manifestation de cette ampleur. Et il a le recul, déjà 4 ans, 800, c'est, du coup, c'est le gros barnum comparé à nous. Mais il nous apporte sa vision aussi de l'ultra. Il a fait la Race Across America, lui, deux fois, il l'a fait en tant que manager d'une équipe. Et puis il a fait les États-Unis. Moi aussi, il a un CV d'ultra cycliste, un peu d'aventurier également. Donc du coup, voilà, on est dans une approche différente. J'ai aussi des contacts avec la Race Across Germany, donc le côté allemand. Et j'ai des contacts avec les Américains.
Peut-être avant de passer à la question suivante, mais Arnaud, je crois que vous êtes plus ou moins de la même génération. Donc est-ce que vous avez gravi ensemble les échelons de l'ultracyclisme ?
Lui, il est arrivé plus tard sur l'ultracyclisme que moi. Donc on a des connaissances communes parce qu'il a couru en Bourgogne et moi j'ai couru en Bourgogne. Donc c'est assez marrant parce qu'on connaît des personnes, on a échangé là-dessus la dernière fois, notamment des entraîneurs ou des choses comme ça ou des compétiteurs. Mais moi, j'ai arrêté la compétition en 97. Donc, lui, il était plus dans les années début 2000, 2003, 2004. Donc, c'est un peu... Il arrivait plus tard que moi dans le monde de l'ultra. Mais sur le cyclisme traditionnel, on a énormément de connaissances communes, oui.
Tu disais que tu étais, et j'imagine Arnaud aussi, en relation avec pas mal d'autres organisateurs de Race Across d'autres pays. Où en est l'ultracyclisme à l'heure actuelle déjà en Belgique, en France, dans les différents pays européens, parce que j'imagine qu'aux États-Unis, ça se structure pas mal. Est-ce que ça se structure aussi en Europe ?
Alors, ils étaient en avance sur nous. L'organisateur de la Race Across America a créé une fédération aux États-Unis, qui est très reconnue du côté américain. Mais à ce jour, en Europe, l'ultracyclisme, et par l'Union Cycliste Internationale, qui est la fédération qui gère le cyclisme, ce n'est pas reconnu. Mais on voit bien que actuellement, l'ultra est en train d'évoluer. De toute façon, le vélo, c'est comme tous les milieux. Ça évolue de jour en jour. L'ultra, on ne sait pas ce que ça va devenir dans 10 ans. Donc, actuellement, les fédérations de cyclisme dans tous les pays regardent d'un œil, j'irais aviser, le développement de l'ultracyclisme. Donc, moi, par exemple, je suis en contact avec la fédération Wallonie-Bruxelles, puis Belgian Cycling, qui gère le cyclisme de compétition. Là, on est en dialogue pour reconnaître l'ultracyclisme comme une discipline au sein de la fédération cycliste. D'autres pays sont en train de faire les mêmes démarches au niveau de leur pays. Et après, il y aura la structure internationale. Quoi.
C'est un petit peu ce qui s'est passé. On a vu le même phénomène avec le trail par rapport à la course à pied sur route. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu suivre de près? Parce que je sais que tu es aussi coach en course à pied notamment. Est-ce que tu es peut-être en contact avec certaines fédérations au niveau du trail?
Non, mais disons que si on compare, c'est un peu ce qui s'est passé dans le trail. À un moment, il y a une fédération internationale qui s'est mise en place avec des points, toutes ces choses-là. notamment pour se qualifier pour l'UTMB ou toutes ces épreuves phares, il faut aligner des points à gauche à droite. On pourrait très bien imaginer un jour que pour aller faire la Race Across America, on dise il faut 10 points. Eux, c'est l'ITRA, la Fédération Internationale de Trail. On pourrait très bien imaginer. On ne sait pas où on en est. Il ne faut pas non plus voir trop vite les choses. Je pense que nous, organisateurs, l'intérêt qu'on a, c'est que ça soit une discipline reconnue officiellement au sein d'une fédération. Parce que du coup, ça a plus de poids et c'est plus simple que d'être chacun dans son coin. Et d'être reconnu par une fédération ou une fédération internationale, je pense que c'est hyper important pour nous, organisateurs, et pour les participants également.
Puis fédérer un peu tout ça, professionnaliser peut-être aussi un peu tout ça. On en parlait dans des épisodes précédents, à l'instar de ce qui s'est fait sur le triathlon, qui existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Mais dès qu'il y a eu quelqu'un qui a voulu fédérer un petit peu les triathlètes professionnels avec le PTO, de l'intérieur en tout cas, ça a l'air de porter ses fruits. Donc peut-être que l'ultracyclisme devra aussi passer par là. Si on revient justement plus à l'ultracyclisme en Belgique, sur la Race Across Belgium, quel est ton objectif à court et moyen terme? Alors j'imagine que le premier objectif, c'est déjà c'est de clôturer cette première édition qui a été reportée, mais à plus moyen terme.
Voilà, l'idée sur les 3-4 ans à venir, ça serait qu'on arrive à 300-400 participants. Je trouve que ça, c'est abordable et c'est un bon chiffre. Parce que partir sur beaucoup plus, ça va demander une structure beaucoup plus grosse. Pour le moment, on avait bloqué à 120 déjà volontairement pour ne pas partir et puis se planter en tant qu'organisateur. On a bien fait avec le Covid et tout, c'est déjà pas simple à organiser. Mais à l'avenir, on pourrait très bien être 300-400 au départ.
Surtout que pour l'instant, c'est quelque chose qui est fait de manière bénévole. Alors il y a plusieurs personnes au niveau de l'organisation, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre sur place. Il n'y a pas vraiment de track record. Alors toi, tu as déjà organisé quelques événements, mais dans un style tout à fait différent.
Oui. Donc on est vraiment là, on est encore amateur, je dirais, dans l'organisation entre guillemets. Hein, je mets ça entre guillemets. Petit à petit, même dans les participants, j'imagine qu'un jour on pourrait avoir, mettons sur des équipes ou des athlètes professionnels en ultra distance. On pourrait très bien avoir une équipe de deux sous le label Canyon ou sous le label Trek. Un jour, on va y arriver, je pense. Il y a des marques qui vont s'intéresser à l'ultra cyclisme et on aura le team. Alors, je dis un team d'une marque ou autre. Lipi, je pense qu'à terme, il y aura ça va évoluer vers ce type-là, quoi. Je parle pour les participants.
Pour la beauté du geste, t'aurais pu parler du team Oana quand même.
Oui aussi, mais je parlais des vélos parce que je parle de marques de vélos. À mon avis, à la Race Across America.
Bon, d'ici là, on aura sorti un vélo Oana.
Ouais, bah voilà.
Ah, voilà, c'est ça.
Mais aux États-Unis, ils ont déjà des teams de marques de vélos qui viennent au départ sur la Race Across America.
Alors pour finir peut-être sur la Race Across Belgium, avant de repasser à toi, comme ça on finira comme on a commencé. Ceux qui passent la ligne, 3, les 5, les 10 premiers de chacune des épreuves, qu'est-ce qu'ils ont le droit, en dehors de la reconnaissance éternelle d'avoir fini cette Race Across Belgium?
Tous les participants du premier au dernier, ils ont un magnifique maillot Oana, Race Across Belgium. Ça, c'est important. Et par contre, alors volontairement aussi, dans notre philosophie, il n'y a aucun prix. Quand je dis prix, des primes, des choses dans le genre, parce que je sais que certaines manifestations offrent des choses, et aucun participant n'est invité aussi en disant « j'invite le numéro 1 mondial au départ ». Voilà, c'est-à-dire qu'on est tous égaux, tout le monde paye son engagement du premier au dernier, et entre guillemets, j'allais dire, c'est pour le fun. Vous avez tous le même accueil à l'arrivée, tous les mêmes prestations. C'est vraiment la philosophie qu'on a, parce qu'autrement, on met deux catégories de participants sur la même ligne de départ, des participants qui vont payer leur dossard, qui vont et des invités. Voilà, ça va. On part sur le même principe, on est tous égaux et on a la même chose au départ et à l'arrivée.
Et pourtant, ça n'a pas empêché d'avoir quand même quelques jolis noms sur la ligne de départ.
Exactement. Donc là, c'est particulier, mais on avait quasiment les 2-3 meilleurs mondiaux en termes d'assistance et sans assistance qui étaient prévus au départ cette année.
Là, est-ce que tu as déjà des noms à nous donner ou est-ce que justement avec le report, ça a été un peu...
Avec le report, on est en train de voir en fait, mais on a des participants qui ont déjà fait la Race Across France, des beaux palmarès, des gens qui sont très bien habitués. Le 300, c'est particulier. Typiquement, c'est des personnes qui se lancent dans l'ultra, qui viennent pour découvrir. Le 600, on a des gens entre les deux, mais le 1000, c'est des gens qui sont vraiment habitués à faire du long tout le temps, quoi. Donc beaucoup de gens font Paris-Brest-Paris, des diagonales, des choses dans le genre.
Moi, j'aurais finir sur toi parce que on s'est déjà parlé. Je sais que tu as un palmarès long comme le bras, mais j'ai l'impression qu'on n'a quasiment pas abordé. Tu nous as parlé de ton premier 24 heures, de ton record de 48 heures sur Home Trainer. Qu'est-ce que tu as d'autre comme fait d'armes?
La dernière année, en fait, vraiment sur l'ultra, j'ai fait le premier Tour de France non-stop, qui était un peu les prémices de la Race Across France, si on remet un peu dans le contexte. Donc c'était faire un Tour de France comme à l'origine, le plus près des frontières, donc 5000
oui,
kilomètres.
C'était pas le Tour de France comme maintenant où on part de Nouvelle-Zélande et puis on fait quelques étapes en France. Là, quand on parle du Tour de France que toi tu as fait, t'as vraiment tracé toute la France
voilà.
à vélo.
Donc là, c'était une épreuve qui se déroulait en 96, qui était organisée par d'ailleurs par le Triple Ironman du Fontanil. Et donc on était 5 au départ. Quand j'ai les photos du départ, hein, tu avais vu Olivier, en fait, c'est vraiment les photos. Quand on voit les photos du premier Roc d'Azur VTT ou du premier Ironman, c'est un peu les mêmes choses, hein, 5-6 au départ, avec des casques fluo de l'époque, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, casques fluo et tout, les années folkloriques, entre guillemets. Donc ça, c'était aussi une épreuve très particulière. Donc c'était avec assistance. C'était vraiment la copie de la Race Cross America, entre guillemets.
Et du coup, qu'est-ce que tu as ressorti de cette expérience ultime? Parce que tu dis que c'était la dernière année. C'est-à-dire ta dernière année où tu étais vraiment dans le
sur l'ultra,
dans le peloton.
Oui, parce qu'après, j'ai passé en 97 mon diplôme. Et après, j'ai encadré. J'ai tout de suite commencé. J'ai fait le choix de travailler dans le vélo très rapidement derrière. J'ai fait un choix. J'aurais pu sans doute continuer derrière. Mais bon, ça faisait 6-7 ans que je tournais quand même dans le milieu de l'ultra. J'étais très jeune, donc peut-être que j'avais envie de passer aussi à autre chose. Après, on fait des choix dans la vie, hein, qui sont. Mais j'y reviens quand même, quoi, par le côté organisateur. Là, c'était vraiment une petite organisation. Il fallait se remettre dans le contexte, mais la route n'était pas coupée. Enfin bon, c'était particulier aussi. Hein.
Qu'est-ce que tu en as ressorti de cette expérience?
L'aventure. À l'époque, partir sur un Tour de France non-stop avec un camping-car à l'arrière, j'avais une moto d'assistance. C'était vraiment partir pour 15 jours d'aventure. On partait par les Alpes, donc du côté de Grenoble, on montait l'Isran, on passait dans le Beaufortin, les grands cols des Alpes. Moi qui venais de Lorraine, j'ai jamais monté des cols de 20 km. Voilà. Et puis on passait Annecy, on embrayait par le Jura, l'Alsace, on basculait tout l'Est, on suivait le Luxembourg, on passait à Thionville, le nord de la France, jusqu'à Brest. Redescendre toute la côte, c'était vraiment, on partait à l'aventure. C'était les pistes 5 personnes de profils totalement différents. Donc du coup, la veille, on était resté pendant 2 jours tous ensemble sur Grenoble. On a mangé tout le temps tous ensemble avec les assistants à 30 personnes. Du moins, c'était une compétition sans... Ça, c'est typique de l'ultra. C'est, entre guillemets, il y a un classement à l'arrivée. Mais il y a une bonne ambiance entre nous. Les deux derniers jours avant l'épreuve, on était, le soir, on se réservait tous un restaurant, mais on mangeait tous avec notre assistance, mais les 5 ensemble. On n'était pas dans notre coin. On savait qu'on allait partir dans une aventure entre guillemets.
Et du coup, vous êtes parti à 5, vous êtes arrivé à 5?
Il y en a qu'un qui est arrivé. Donc c'était un peu la particularité parce qu'on a tous eu des tendinites et tout. Donc à l'époque, l'approche n'était pas la même. On n'anticipait pas trop sur où on pouvait dormir. Donc on avait le camping-car qui permettait de se reposer. Mais c'est vraiment l'aventure. Partir sur 5000 km avec un camping-car, il faut trouver quand même des endroits du coup pour le déverser, faire les courses et tout. Pendant qu'il y en a un autre qui suit le participant. Le lavage des maillots, c'est compliqué. Trouver des laveries. À l'époque, il fallait trouver des laveries aussi sur les bords de route. Et tout, donc il n'y avait pas de GPS, c'était tout au téléphone. On avait un téléphone obligatoire, c'était les gros téléphones Motorola, c'était très particulier. Et on devait appeler l'organisateur toutes les 3 heures.
L'aventure, mais dans tous les sens du terme, quoi.
Oui, parce que c'était, il y avait pas de réseau partout à l'époque. Voilà, c'était vraiment compliqué. Et toutes les 3 heures, fallait que l'assistant appelle l'organisateur pour dire où on était.
Trouver une cabine téléphonique, j'imagine.
Ouais, si on n'arrivait pas. Oui, voilà quoi. Aujourd'hui, les moyens de communication ont totalement évolué.
Donc, à la limite, il aurait fallu que tu portes une balise Argos de 20 kilos avec toi. Là, maintenant, tu mets un petit traceur GPS que tu mets sur la selle de ton vélo ou enfin sur la tige de selle ou même à la limite que tu mets dans la poche du maillot, ça pèse rien.
Oui, ça fait pas mal évoluer toutes les épreuves longue distance dans toutes les disciplines. Aujourd'hui, quand on regarde la route de Rome, on peut être en échange comme là on est avec un marin qui est en plein milieu de la mer. Il y a 20 ans, c'était totalement impossible.
Et donc pour finir, tu nous as dit t'as très vite enclenché sur travailler dans le milieu du vélo, t'as passé tes diplômes d'état ou tes brevets d'état, tu entraînes. Qu'est-ce que tu fais maintenant?
Alors en fait, j'ai créé Plein Air Coaching et donc j'encadre que des activités de plein air, running, trail, vélo et marche nordique. Et je propose mes services à des entreprises, à des groupes. Donc là, il y a des séances encadrées et des séances individuelles, le cours particulier, comme tout le monde dit. Et puis aussi de la planification d'entraînement. Je propose aussi mon suivi d'entraînement à des sportifs qui vont sur de l'ultra, par exemple. Après, il y a beaucoup de points communs sur l'ultra trail et l'ultra cyclisme, par exemple.
Donc, l'ultra, c'est pas un sujet que tu connais, pourtant, je comprends pas pourquoi t'en.
Non, d'ailleurs, j'ai énormément de mal à m'y mettre. Mais voilà, donc je me, là aussi, sur la planification d'entraînement, je dirais le côté, je suis un peu plus sur, positionné sur le monde de l'ultra parce que c'est un peu ma fibre d'origine.
Ce qui fait quand même du sens quand, quand on sait tout ce qu'on vient d'apprendre sur toi ces derniers jours.
Exactement, oui.
Si justement on veut rester en contact avec toi, si on veut faire appel à tes services, où est-ce que ça se passe? Comment on te contacte?
Donc il y a une page Facebook, Plein Air Coaching, et là il y a moyen de rentrer en contact.
Petite question pour terminer, est-ce que tu acceptes de coacher des participants de la Race Across Belgium potentiellement?
Alors l'idée à terme, j'aimerais bien que développer une vraiment une synergie sur la Belgique pour qu'un jour nous ayons des Belges à la représenter à la Race Across America. Créer vraiment un gros développement sur le territoire et qu'on ait aux couleurs de la Belgique avec des partenaires belges et qu'on représente la Belgique. Voilà, ça serait mon rêve ultime. Je sais pas si on peut dire ça, manager l'équipe ou voilà, on n'en est pas là encore, hein, on est vraiment aux prémices. Mais pour moi, ça aurait du sens, créer une épreuve phare sur le pays, créer une réelle dynamique sur le pays, une reconnaissance de la Fédé comme on vient de voir et tout, et à terme pouvoir avec des sponsors vraiment belges, dire voilà, il y a pour la première fois dans l'histoire de la Race Across America, il y a, alors on peut la faire à 4, ça serait déjà le plus simple, on va représenter la Belgique aux États-Unis. Ça serait peut-être dans 10 ans, 15 ans, on ne sait pas, peut-être plus vite.
Peut-être avant. Avant, quand même. Regarde, avec ceux qu'on a reçus sur le podcast, déjà tu as Olivier, tu as Xavier Massard qu'on va bientôt recevoir, Olivier Vernet qui ne doit pas en être loin de l'Ultra, donc je pense qu'il y a de quoi faire.
Voilà. Puis après, il faut trouver des partenaires, des gros partenaires en fait, pour pouvoir belges, parce que du coup, ça aurait du sens avec des partenaires belges, parce que du coup, c'est quand même un budget. Aller faire la Race Across America à 4 participants plus le staff alentour, c'est un budget au-delà de 60 000 euros. Quoi. Il faut louer des camping-cars là-haut. Du moins, voilà, ça se construit et on ne peut pas dire à 4 personnes au mois de janvier, on va y aller au mois d'août. À mon avis, c'est un projet sur 2-3 ans. Parce que, oui, voilà, il y a tout à. Mais ça, c'est un projet qui me plairait bien, créer une réelle dynamique sur le territoire.
Donc la Race Across Belgium, finalement, ça te permet aussi un petit peu de recruter tes futurs poulains, c'est ça?
Ça serait à terme de lancer une dynamique et de voir les potentiels qu'il y a et peut-être de parler à ces gens-là. De leur dire, écoutez, il existe quelque chose de le côté de l'Atlantique, ça serait peut-être intéressant d'aller jeter un œil et une fois que l'idée est germée, peut-être qu'on pourrait dire banco, quoi. Et
puis, bah, je pense après... qu'il y a du potentiel. En Belgique, c'est quand même un gros pays de cyclistes, hein, et les cyclistes, c'est pas ça qui manque, donc je pense qu'il y a du potentiel, ouais.
Donc, pour coacher, oui, parce que de toute façon, deux choses, en fait, je suis directeur de l'épreuve, mais à terme, pas cette année, mais l'année prochaine, je prendrai quelqu'un, en fait, qui gérera les commissaires, en fait, toutes ces choses-là. C'est pas moi qui prendra les décisions de dire à quelqu'un tu es meilleur course. Voilà, parce que ça me paraît important. On peut pas être directeur, être en contact, en échange avec tout le monde, et puis aller annoncer un participant. Il y a deux choses. Il faut que ça soit un statut particulier. Donc l'année prochaine, je vais nommer une personne qui sera vraiment commissaire de course. Et s'il y a une disqualification annoncée, ça sera pas moi, ça sera le jury des commissaires, entre guillemets, comme on peut dire, ou arbitre en triathlon. Voilà, donc du coup, ça n'engendrerait pas de problème pour l'organisation, et puis coacher des personnes, parce que la décision, ça serait pas moi, le classement, c'est pas moi qui le ferais. Donc petit à petit, je vais m'entourer d'une équipe pour pouvoir déléguer, et du coup, se répartir les tâches. Mais ça me paraît un rôle important à un moment, de laisser le côté réglementaire et décisionnel à quelqu'un d'autre. C'est pas moi du coup qui l'annonce, parce que moi du coup je suis en contact avec tout le monde, j'accueille tous les participants, toutes ces choses-là, ça peut être plus compliqué.
Je pense que ça nous fait une belle conclusion pour l'épisode du jour et puis pour notre série hebdomadaire. Olivier, est-ce que tu voyais d'autres points à aborder où on libère Michel pour qu'il aille continuer à organiser cette belle course qui se prépare courant août?
Ouais, mais je pense qu'il y a encore du boulot effectivement, donc on va te laisser retourner à tes activités et puis on te dit au mois d'août, hein, du coup, parce qu'on sera là. On sera là en tant que ce soit en tant que participant ou en tant que podcasteur, on viendra pour couvrir l'événement, c'est sûr.
Ouais, on viendra trimballer nos micros jusque à
exactement
un peu partout sur le parcours.
Donc si vous voulez venir participer au podcast aussi, chers auditeurs, que ce soit en tant que participant ou en tant que spectateur, ce sera l'occasion.
Et Armano, tu es invité, bien sûr, à être présent. On en avait déjà parlé pour réaliser des petites interviews. Voilà, donc il n'y a aucun souci.
Ce sera fait, Michel, ce sera fait. Je viendrai balader mes micros. Super. Merci beaucoup, Michel.
Merci à vous deux.
Merci, Olivier.
Merci à tous les deux.
une bonne fin de journée à toi, Michel, et un bon week-end. Salut.
Salut les gars, bon week-end.
Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.